Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois, mais aussi Margot Loridon, Bertie Bourdon, Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. On poursuit notre série consacrée au Parlement à la renverse. Lundi, nous parlions des fondements du parlementarisme à l'épreuve du côté de Westminster. Mardi, nous parlions de la valse des coalitions et de la difficulté à construire des exécutifs stables. On parlait notamment de l'Italie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à toutes ces initiatives qui tentent de répondre à la crise de la représentation. Du RIC au tirage au sort, répondre à la crise de la représentation, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
L'état d'urgence climatique, il est là. Notre jeunesse nous le dit à chaque instant. Et nos concitoyens veulent agir. Ils agissent déjà au quotidien, ils veulent qu'on les aide à aller plus loin, qu'on les accompagne, qu'on les aide à trouver des solutions concrètes. Mais il y a une conscience citoyenne sur ces sujets qui s'est profondément transformée ces dernières années, qui va beaucoup plus vite que nombre de politiques publiques. C'est pourquoi la convention citoyenne de 150 citoyens tirés au sort dès le mois de juin aura pour première mission de travailler sur ce sujet, de redessiner toutes les mesures concrètes d'aide aux citoyens sur la transition climatique dans le domaine des transports, de la rénovation des logements, de définir, si besoin était, d'autres mesures incitatives ou contraignantes, et, si besoin était, de définir aussi des ressources supplémentaires et de proposer des financements pour ce faire. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit référendum, soit application réglementaire directe.
Nombreux sont les sujets sur lesquels les citoyens affirment leur désir de participation. Et de ce point de vue, la question du climat est particulièrement révélatrice. Cette aspiration a visiblement été entendue par Emmanuel Macron, puisqu'il avait annoncé à l'issue du grand débat national l'organisation d'une convention citoyenne pour le climat qui s'ouvrira début octobre. La campagne téléphonique pour sélectionner les 150 participants a d'ailleurs commencé à la fin août. Et la constitution du panel citoyen est en cours. Mais que peut-on en attendre ? Sera-t-elle de nature à apporter des réponses sur le défi environnemental, mais aussi sur la crise de la représentativité qui touche nos démocraties? Car en effet, nos démocraties représentatives sont bel et bien à bout de souffle, comme le montre l'actualité récente, celle par exemple de la crise politique institutionnelle engendrée par le Brexit au Royaume-Uni dont on parlait lundi, ou le renversement d'alliance en Italie, pour citer deux situations que nous évoquions cette semaine, mais aussi évidemment la lame de fond qui traverse le monde avec la montée des populismes par lesquels des responsables aspirent à l'illibéralisme et revendiquent une supposée relation directe avec le peuple, au motif que les institutions représentatives, précisément, que les corps intermédiaires ne feraient plus leur travail de défense de ses intérêts. Alors quels sont les dysfonctionnements de la démocratie représentative et comment répondre à cette crise? Quelles sont les pistes en la matière? Le référendum d'initiative citoyenne, les conventions citoyennes, le tirage au sort, les plateformes numériques? Et quel bilan peut-on en faire? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord avec nous ici en plateau, Yves Saint-Omer, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, professeur à l'université Paris 8, mais également chercheur associé à Oxford. À nos côtés, en duplex de Lausanne, Dimitri Courant, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes doctorant en sciences politiques en co-tutelle, Université Paris 8 et Université de Lausanne. D'abord, peut-être l'un et l'autre, on va commencer par un état des lieux de la crise. L'ampleur de cette crise de la représentativité, Yves Saint-Omer, après tout, est-ce qu'on n'a pas un tout petit peu tendance à vouloir lui faire porter à cette représentativité, à cette question de la représentation, tous les maux de notre temps, alors qu'au fond, la crise est peut-être assez largement multiple? Est-ce que nos élus, nos représentants sont pas un peu des boucs émissaires d'un désastre qui en réalité les dépasse assez largement?
Il est évident que la crise n'est pas simplement une crise politique. Il y a par exemple une crise aiguë de l'insertion de la France et plus largement de l'Europe dans la division internationale du travail. On n'est plus au centre de l'économie monde. On est une partie menacée, en particulier dans l'Europe du Sud. Et en France, on est un peu entre l'Allemagne et l'Italie, si on voulait le dire ainsi. Il y a une crise aussi du modèle de développement, du modèle de production de consommation, la crise écologique, qui dépasse largement la crise politique. Simplement, il faut ajouter qu'il y a bien une crise politique spécifique, qui est structurelle, qui touche la France particulièrement. On n'a pas eu une crise comme celle des Gilets jaunes dans tous les pays occidentaux, mais en même temps une crise qui est structurelle et très largement répandue dans à peu près toutes les démocraties occidentales.
Dimitri Courant, est-ce que vous êtes d'accord avec ce bilan de santé? Et puis peut-être aussi sur le lien que vient d'introduire Yves Saint-Omer à l'instant entre le mouvement des Gilets jaunes et cette crise de la représentation. Est-ce qu'effectivement le mouvement des Gilets jaunes est, de votre point de vue, un symptôme de cette crise de la représentativité?
Oui, alors déjà je pense que c'est assez clair dans la revendication qui a été une revendication émergente, qui n'était pas là au départ, mais qui s'est ensuite cristallisée dans le mouvement des Gilets jaunes, qui est la demande du référendum d'initiative citoyenne, qui donc signifie bien une certaine forme de défiance accentuée avec une réponse institutionnelle, le fait qu'on ne veut plus s'en remettre intégralement aux élus, mais on veut pouvoir donner un droit aux citoyens d'agir directement sur les politiques du pays. Donc ça me semble être très révélateur, mais en effet, il faut pas oublier qu'avant les Gilets jaunes, et pas seulement en France, il y avait des mouvements qui avaient des revendications assez similaires. On peut penser à Occupy Wall Street, qui demandait une vraie démocratie, qui disait qu'ils étaient les 99%, ou les mouvements des indignés en Espagne, ou les mouvements d'occupation en Grèce, à Syntagma. Donc il y a une dimension assez globale de cette défiance, et puis elle s'exprime par des indicateurs assez précis. Le taux d'abstention d'une part qui est en augmentation assez constante un peu partout dans le monde, la baisse du taux d'encartement des citoyens dans les partis politiques et les sondages qui révèlent une défiance grandissante envers les institutions comme les partis politiques et les responsables politiques qui suscitent moins de confiance que des choses comme les banques par exemple ou les compagnies d'assurance ou ce genre de choses.
Cette crise est bien là et depuis longtemps. Yves Saint-Omer, je le disais dans mon introduction, donc dans quelques jours va s'ouvrir la Convention citoyenne pour le climat. C'était l'une des réponses précisément d'Emmanuel Macron à la crise mouvement des Gilets jaunes. Donc 150 citoyens tirés au sort, mais quand même sélectionnés, qui vont se réunir pendant plusieurs week-ends pour participer à des travaux et pour formuler des propositions qui seront ensuite soumises à l'exécutif, aux parlementaires. Ça doit être normalement au début de l'année 2020. Alors en théorie, c'est évidemment une initiative qui apparaît extrêmement intéressante, mais on voit aussi les limites et on en parlera. Et évidemment, cette crainte peut-être que tout cela ne serve à pas grand-chose et finisse au fin fond d'un placard. Que vous inspire d'abord l'initiative elle-même? Est-ce que le simple fait de mettre en place ce genre de dispositif citoyen, est-ce que ça vous semble révéler une réelle volonté de la part du chef de l'État de revitaliser précisément notre démocratie?
Je ne suis pas dans la tête du chef de l'État et il est bien difficile de juger les intentions. Ce n'était pas dans le logiciel du chef de l'État durant la première partie de son mandat. On a eu une première partie de mandat, non seulement typique de la Ve République, descendante, le président jupitérien qui ne dialoguait avec personne.
En revanche, c'était dans sa campagne. C'était dans le logiciel de sa campagne.
C'était un peu dans le logiciel de sa campagne, vous avez raison, mais pas dans la pratique du pouvoir, disons. Et puis le logiciel de sa campagne relevait davantage d'une imprégnation d'une démocratie de proximité, d'écoute, un peu ce que faisaient classiquement les élus de proximité, comme on les appelait, les élus de terrain. Il y a eu le grand débat, qui n'a pas débouché sur grand-chose, et qui a surtout été un moyen de faire bouger l'attention médiatique du mouvement des Gilets jaunes à autre chose. Peut-être que là, nous avons le début d'une nouvelle étape. C'est proclamé comme ça. Attendons de voir si cela se vérifie.
Dimitri Courant, comment est-ce que vous voyez les choses depuis Lausanne, cette convention citoyenne pour le climat, ce genre d'exercice, qu'est-ce qu'il apporte d'abord réellement, Dimitri Courant?
Déjà, je pense qu'il faut essayer de le replacer dans un contexte plus global, c'est-à-dire que là, des assemblées citoyennes, et notamment qui vont devoir s'adresser sur la question climatique, mais pas seulement, il commence à y en avoir un peu partout. Il y en a une qui est lancée en Écosse, il y en a une qui est lancée au Royaume-Uni, il y en a une qui a eu son premier week-end de délibération en Allemagne. Donc c'est dans l'air du temps, si vous voulez. Maintenant, en effet, il faut rester prudent parce que ce genre de dispositifs sont pas encore institutionnalisés, c'est-à-dire que ils restent dans leur grande majorité à la discrétion des gouvernants de décider s'ils les mettent en place, sur quel thème ils les mettent en place, et plus problématique encore, ce qu'il advient ensuite, la façon dont ils sont organisés, mais ce qu'il advient ensuite de leurs propositions. Et là, on a un engagement. On va dire un peu mixte, puisque du coup, dans la proposition que vous avez passée au début de l'émission, il y a l'idée que ce sera soumis soit à référendum, soit au Parlement, soit à... Mais du coup, soit, ça veut dire qu'il y a encore de la marge de manœuvre pour décider ce qu'il advient de quoi. Et là-dessus, en effet, par rapport à un cas qui a été une des premières assemblées citoyennes, qui est le cas de la Colombie-Britannique au Canada, l'engagement du gouvernement à l'époque, ça avait été de dire, quelle que soit la proposition, ce sera soumis à référendum. Mmh. Donc, ce qui était un engagement plus fort. Bon, ça reste quand même beaucoup mieux que ce qui avait été fait pour le grand débat, où là, il n'y avait aucun engagement. Et d'ailleurs, il n'en est pas sorti grand-chose. Mais peut-être, enfin, en fait, pour revenir sur quelque chose que vous dites, vous passez souvent de représentation à représentativité. Et je pense qu'en effet, le cœur du problème, il est là. C'est-à-dire que la représentation n'est pas nécessairement représentative. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, c'est le travail notamment de Bernard Manin, mais quand les gouvernements représentatifs ont été fondés, donc lors des révolutions françaises et américaines, l'idée n'est pas d'avoir une représentativité au sens descriptif, un microcosme, d'avoir une présence des différentes catégories socioprofessionnelles.
Une mini-société.
Mmh. Absolument, ouais. Mmh. C'est pas ça. L'idée, c'est d'avoir une distinction, d'avoir des gens qui sont socialement supérieurs au reste de la population, qui se distinguent. C'est ce qu'ont confirmé notamment les études sur le sens caché. Il y a, même si on a aboli le sens, le fait de payer pour devoir voter, il y a malgré tout une sélection sociale très forte qui s'opère par l'élection. Et du coup, le tirage au sort, les mini-publics, eux, visent à être représentatifs au sens de la représentativité descriptive.
Alors justement, Yves Saint-Omer, ça c'est intéressant de peut-être s'attarder sur cette question de la représentativité. Ça fait longtemps qu'on organise ce genre de choses. Alors, on appelle ça convention citoyenne, conférence de citoyens, des petites... enfin, il y a plein de noms. Mini-public, enfin, il y a plein de noms. Comment est-ce qu'on fait, très concrètement, pour s'assurer que le panel qu'on va sélectionner, parce qu'on parle de tirage au sort, mais enfin, c'est des gens qu'on a tirés au sort, mais ensuite qu'on a bien agencé de sorte à ce que précisément ça soit représentatif de la société. Comment est-ce qu'on fait pour faire ce genre de choses? C'est un exercice extrêmement délicat.
Alors, c'est un exercice délicat dans la mesure où, la participation n'est pas obligatoire, on n'est pas dans le cas des jurys d'assises, où théoriquement, quand on est convoqué, on doit répondre, sauf exception à la convocation. Et donc, en général, on confie à des sociétés de sondage le fait d'établir, sur la base de quotas, qui dépendent de la question à traiter, de l'occasion, homme-femme, représentation géographique, milieux socio-professionnels différents, niveau d'éducation, le cas échéant. Sur la base de ces quotas, on tire au sort des citoyens en leur demandant s'ils veulent bien participer. Et puis, en fonction de leurs réponses, on remplit peu à peu les cases. Mmh. Donc, c'est un tirage au sort qu'on peut appeler stratifié, corrigé. Qui est un mixte de facto entre tirage au sort, quota, volontariat. Le taux d'acceptation notamment est très faible lorsque les citoyens ne sont pas rémunérés pour leur travail.
Mmh. Vous parlez de rémunération, permettez-moi une question un peu triviale mais qui pourtant a son importance. Ça coûte cher de faire ce genre de choses, parce que si on imagine demain organiser toute une série de conventions sur des sujets extrêmement variés, on peut se dire que c'est formidable tout ça, mais c'est possible financièrement? On peut le faire? On a les moyens de le faire? Ça coûte combien, ça? Une convention citoyenne pour le climat?
Alors, la convention citoyenne pour le climat, je ne saurais vous dire...
J'ai lu 4 millions.
Oui, c'est cela, oui. Mais dans les 4 millions, c'est pas l'indemnisation des citoyens qui coûte le plus cher. Mmh, mmh. C'est l'ensemble. Mmh. Donc, oui, ça a un coût. Il faut pas le cacher. Mais ce coût, il faut le comparer d'abord avec le coût de fonctionnement du système politique. C'est pas grand-chose, sur le fond. Et puis avec le coût des campagnes de communication politique, qui pèse énormément. Et puis ensuite...
Enfin, ça dépend. Si vous faites une convention sur chaque thème sur lequel vous allez légiférer, ça peut finir par coûter cher.
Mais je pense que personne ne propose cela. Il s'agit de définir des domaines, des occasions où, obligatoirement, on aurait recours à ce genre de mesures.
C'est des conventions citoyennes thématisées.
Voilà, elles sont thématisées et elles sont surtout extrêmement ponctuelles. Comme le disait Dimitri Courant, elles sont organisées par le pouvoir en place, sur les thèmes qu'il veut, quand il veut et avec les modalités qu'il désire. Donc c'est quelque chose de plus limité. Et puis ensuite, il faut penser à l'efficacité des politiques publiques. Pensez par exemple au retard que nous prenons aujourd'hui sur les questions écologiques, y compris depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron. Nous allons le payer cher, parce que plus on attend, et plus la reconversion coûtera cher. Donc, par rapport à cela, je crois que ces problèmes de financement sont finalement anecdotiques.
Vous êtes d'accord, Dimitri Courant, c'est anecdotique finalement, cette question du financement?
Je pense que il faut penser de façon comparative. Quand on compare au coût de la démocratie électorale, c'est rien du tout. Enfin, c'est vraiment. Et puis, je pense qu'après, en effet, il faut pas non plus penser que comment dire, que ce genre de choses, ça va tout résoudre d'un claquement de doigts. Mmh. C'est pas nécessairement ça. Et en effet, là, je pense qu'il y a aussi une question qui se pose vraiment sur comment est-ce qu'on décide quel thème on traite et quel thème on confie à ces assemblées. Il y a plusieurs modalités qui sont pensées, mais en effet, si c'est pour discuter de choses sur lesquelles, de toute façon, dans la société, il y a un grand consensus, c'est pas vraiment la peine. Et si c'est pour discuter de choses qui sont pas très compliquées, c'est pas vraiment la peine. Donc, en effet, en règle générale, quand on regarde empiriquement ce qui s'est passé dans d'autres pays et là en France, c'est plutôt sur des questions compliquées, conflictuelles et sur lesquelles le pouvoir politique est pas à l'aise, on va dire. C'est typiquement le cas en Irlande avec la question de l'avortement où le pouvoir politique était pas à l'aise avec la question de l'avortement. C'est le cas des assemblées citoyennes en Colombie-Britannique, en Ontario et aux Pays-Bas où la question c'était la réforme du système électoral puisque du coup les hommes politiques étaient à la fois jugés partis, ils bénéficient d'un système électoral ou d'un autre. Et donc là, la question écologique me semble être en effet une question à la fois clivante, à la fois compliquée, à la fois transversale. Donc pour ces questions-là, ça fait tout à fait sens d'avoir recours à un dispositif particulier qui a fait ses preuves depuis les années 80 pour aboutir à des solutions de qualité et qui permettent de prendre en compte différents aspects d'un problème qui est pas simple et qui justement tranche un peu avec la vision un peu partisane de la vie politique électorale classique de nous avons une solution, nous avons un programme, nous allons défendre notre programme, appliquer notre programme contre l'opposition qui va s'opposer, etc. Et là, c'est vraiment une logique très différente. C'est une logique de délibération où on doit écouter les points de vue des gens. On ne sait pas nécessairement s'ils vont être d'accord avec vous ou pas quand vous commencez à parler. Il n'y a pas d'identification partisane claire. Vous n'avez aucune idée de qui sont les gens autour de la table avec vous. Et du coup, on aboutit en effet à des choses assez intéressantes. Et puis, parfois qui permettent des changements importants, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que des fois quand les propositions sont un peu trop ambitieuses, le pouvoir politique est pas ravi.
On va le voir justement sur le cas de l'avortement en Irlande. On va procéder ensemble au décryptage de tout ça, parce que c'est par ailleurs un processus qui a mis du temps à aboutir, mais je voudrais qu'on s'y intéresse vraiment de façon extrêmement précise. Mais d'abord, peut-être Yves Saint-Omer, sur la question des thèmes à aborder ou pas avec ces conventions citoyennes. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement un périmètre, un peu, un balisage à faire? Je ne sais pas, il y a peut-être des questions qui ne seraient pas forcément bienvenues de débattre dans des conventions citoyennes. Je ne sais pas, complètement au hasard. La question de savoir si un pays doit ou non rester dans l'Union européenne, suivez mon regard, on voit ce que c'est en train de produire comme type de crise politique et institutionnelle. Peut-être que si on l'avait soumise à une convention citoyenne du côté de la Grande-Bretagne, puisqu'il s'agit de ça, elle aurait effectivement préconisé que l'on demande par référendum que les Britanniques s'expriment sur ce point-là. Alors est-ce que c'est pas quelque chose à éviter? On pourrait trouver d'autres sujets, la peine de mort par exemple.
Alors, l'Allemagne, qui est l'un des pays où le plus grand nombre de jurys citoyens de ce type, pas exactement des assemblées citoyennes, des groupes un peu plus réduits, plutôt 25 personnes, 25-30 personnes. Et donc le pays, un des pays qui a le plus organisé de mini-publics tirés au sort, a pu prêter un bilan qui était assez clair. Comme le disait Dimitri Courant tout à l'heure, il ne faut pas un thème trop bateau, trop consensuel, trop large. Parce qu'à ce moment-là, les citoyens qui vont discuter vont proposer des choses de bon sens, mais peut-être pas assez audacieuses. Il vaut mieux des thèmes controversés. C'est le premier point.
Les deux exemples que je vous donnais sont des thèmes controversés.
J'y viens. La deuxième chose, c'est qu'il faut des thèmes qui reste dans le cadre de la Constitution, de la même manière que le Parlement ne peut pas mettre aujourd'hui à l'ordre du jour en France le rétablissement de la peine de mort, de la même manière une convention citoyenne ne pourrait pas mettre à l'ordre du jour ce thème-là. C'est anticonstitutionnel, il y a des règles du jeu à respecter et bien sûr elle s'appliquerait à des organismes nouveaux comme ceux dont nous parlons aujourd'hui.
Donc il faut ce garde-fou-là de la...
Bien sûr.
On passe sous le crible de la constitutionnalité
ou
pas.
Soit on modifie la Constitution, ouais, on modifie les traités qui lient le pays à travers la Convention européenne des droits de l'homme à des conventions internationales, mais autrement, on doit les respecter, et heureusement, c'est une protection des minorités et une protection des droits humains importante.
Ça écarte la peine de mort, mais ça n'écarte pas, par exemple, le premier sujet que j'évoquais.
J'y viens. Et par contre, sur un sujet comme le Brexit, au contraire, il aurait fallu organiser une convention citoyenne. Pensez à ce qu'aurait été la campagne référendaire du Brexit si, auparavant, il y avait eu, pendant plusieurs mois, un débat de qualité, dans des conditions presque idéales, pour faire une véritable évaluation des conséquences potentielles du Brexit, pour écarter les fake news, il est probable que le résultat n'aurait pas été le même. Je ne dis pas que les Brexiteurs auraient été vaincus, mais une partie au moins des fake news, des effets d'annonce sur lesquels les politiciens, et Boris Johnson en premier lieu, ont pu jouer, auraient été écartés du débat. Et on aurait eu un débat référendaire beaucoup plus délibératif et sérieux que celui qui a eu lieu aujourd'hui. De la même manière, pensez à ce que serait aujourd'hui une convention citoyenne qui prendrait la place d'un Parlement qui s'est révélé incapable. Et vous l'avez discuté lundi, de trouver une solution adéquate à la situation de crise dans laquelle est plongée la Grande-Bretagne. Une convention citoyenne, j'en suis persuadé, aurait aujourd'hui des propositions qui seraient plus raisonnables et qui iraient davantage vers le bien commun qu'un Parlement complètement clivé par des partis, des personnalités jouant leur propre carte plutôt que l'intérêt général.
Alors, allons justement du côté de la Grande-Bretagne, et en particulier du côté de l'Irlande. Pendant très longtemps, l'avortement était interdit en Irlande, sauf dans des cas très spécifique, en l'occurrence lorsque la vie de la mère était en jeu. C'était une situation qui a provoqué évidemment pour les femmes des drames, ces femmes qui pratiquaient quand même l'avortement dans des conditions particulièrement mauvaises ou même qui devaient quitter le pays. Et il se trouve qu'en décembre dernier, le pays a finalement autorisé l'avortement.
Vote in favor of the proposal. 1,429,900.
Ce vote est le rejet d'une Irlande qui traitait les femmes comme des citoyennes de seconde zone. Ça va dans le sens de l'égalité des sexes. Ce jour est un changement majeur.
C'est juste une immense victoire pour les femmes, les hommes et les futures générations. Je suis tellement émue. C'est une nouvelle magnifique.
Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'une révolution tranquille qui s'est déroulée en Irlande au cours des 10 ou 20 dernières années.
Voilà, et ce qui est intéressant dans ce cas irlandais, c'est que ce qui a permis de voter cette loi permettant l'avortement jusqu'à la 12e semaine, c'est l'abrogation de l'article l'interdisant par voie référendaire, et c'est une délibération citoyenne qui aboutit à une réforme constitutionnelle. Dimitri Courant, vous êtes intéressé particulièrement à ce cas-là. Vous dites que ce qui vous a frappé dans ce cas, c'est l'efficacité de l'organisation et la finesse des délibérations. Il y a eu cette conférence citoyenne sur le droit de l'avortement. En quoi ce dispositif délibératoire vous semble particulièrement remarquable ?
Oui, alors il l'est en fait parce que déjà ils ont pris le temps de délibérer correctement. Ils ont consacré un grand nombre de week-ends à la simple question de l'avortement et puis ensuite un certain nombre de week-ends à d'autres questions qu'ils avaient aussi sur leur agenda. Ils ont vraiment fait une écoute compréhensive de l'essentiel des parties prenantes d'un côté puis des experts de l'autre, en écoutant des professionnels de la santé mais également des professionnels de l'éthique, enfin des spécialistes de des questions éthiques en philosophie, des personnes qui venaient d'autres pays qui leur expliquaient comment dans leur pays ça marchait, etc. Des organisations comme Amnesty International ou l'Église catholique irlandaise. Donc à ce niveau-là, le processus est très intéressant. Mais pour revenir peut-être rapidement sur ce qui était dit avant, justement en fait l'Irlande, elle montre que la Constitution, c'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut respecter à tout prix, parce que sinon ils auraient jamais pu justement légaliser l'avortement. Et donc je pense qu'au contraire, justement pour les réformes constitutionnelles, il y a un mouvement d'ailleurs assez fort, et dans le monde universitaire et dans le monde militant, les réformes constitutionnelles se prêtent particulièrement bien à des assemblées pour justement savoir quels sont les points de loi fondamentales qu'on veut changer ou pas, parce que c'est pas parce qu'une constitution a été édictée il y a un moment qu'il faut la garder, au contraire.
Vous avez pas l'image, mais Yves Saint-Omer semble abonder, il a l'air d'accord, oui, effectivement.
Oui. Ouais. Donc voilà, et d'ailleurs c'est un des principes démocratiques essentiels, comme le dit Castoriadis, de pouvoir remettre en cause toujours ces normes, y compris la peine de mort. Enfin, je veux dire, moi personnellement je suis contre l'abolition de la peine l'abolition de l'interdiction de la peine de mort, mais il me semble difficile de, enfin il y a pas, c'est difficile de trouver un principe en démocratie qui dit qu'il y a certaines choses qu'on peut pas toucher. C'est compliqué. Donc voilà, après et au niveau des usages, il faut distinguer ce qui est nécessaire, donc en effet pour les questions clivées, ce qui est possible. Et après, si on a de l'argent et du temps à perdre, on peut tout à fait faire délibérer les citoyens sur absolument tout. C'est pas un problème en soi. C'est juste que évidemment, il faut être pragmatique et se dire bon bah on a un budget et un temps limité. Quels sont les sujets importants ? Et pour ça d'ailleurs, on pourrait éventuellement penser à un système d'initiative citoyenne enfin moi c'est une proposition que je fais, où justement il y a une récolte de signatures comme pour les initiatives citoyennes, mais plutôt que d'avoir un vote à l'issue de cela, on déclenche un processus délibératif d'assemblée citoyenne à l'issue de la récolte du seuil de signatures. Et d'ailleurs, dernier point, sur le Brexit, il y a eu une assemblée à l'issue du Brexit, justement, qui n'était pas sponsorisée par, soutenue par l'État, mais qui, à l'issue de à l'initiative de la société civile, a fait délibérer un groupe de citoyens avec une proportion égale représentative du vote Remainers, Leavers, et elle a proposé des solutions pour quel Brexit on veut. Maintenant qu'on sort, quel Brexit on veut. Et leurs propositions sont très intéressantes. C'est dommage que...
Mais absolument pas entendu, ni par l'exécutif, ni par les parlementaires britanniques. Yves Saint-Omer, vous vouliez réagir? Je vous rends la parole, Dimitri Courant. Yves Saint-Omer.
Ce que je voulais ajouter aussi, dans les thèmes qui sont susceptibles d'être posés à de telles conventions citoyennes, on peut penser aussi qu'il y a une affinité élective entre ces conventions citoyennes et les problèmes du long terme. Les générations futures, elles ne sont pas représentées. Elles ne votent pas. Et malheureusement, l'horizon des politiciens élus aujourd'hui est davantage le court terme, la réélection, plutôt que véritablement le long terme. Ça n'exclut pas, bien sûr, des actions sur le long terme, mais disons, ce n'est pas au premier plan. Et je crois que, de ce point de vue-là, donner mission à des citoyens tirés au sort, d'incarner, en quelque sorte, ces générations futures à venir, peut être une solution. Et du coup, le thème de la Convention citoyenne pour le climat n'est, de ce point de vue-là, pas du tout absurde.
Et d'ailleurs, à propos justement de ce long terme, d'aucuns avaient appelé à la mise en place d'une troisième chambre qui précisément regarderait, vérifierait les effets des choix législatifs sur le long terme précisément. C'est quelque chose qui avait été beaucoup discuté, notamment du côté de l'écologie politique.
Oui, bien sûr, à la fois en France et également à l'étranger. Et du coup, d'ailleurs, on aurait, s'il y avait une institution de ce type-là, un cadre beaucoup plus favorable à une convention citoyenne ponctuelle pour le climat. L'un des problèmes étant qu'aujourd'hui, cette convention citoyenne s'ouvre, alors que parallèlement, il y a eu un travail de législation qui se fait encore ces jours-ci, ou qui s'est fait encore ces jours-ci, qui ne va pas véritablement dans le sens de mesures audacieuses pour faire face aux défis
climatiques. Mais ça ne réglerait pas la question de la représentation, une troisième chambre.
Qu'est-ce que vous appelez la question de la représentation? La question de la représentation ne se réduit pas à l'élection. La représentation, elle a en fait des facettes extrêmement diverses. Il y a bien sûr l'élection, c'est cela que l'on connaît le plus, c'est ce qui est au centre de nos systèmes politiques. Mais une chambre tirée au sort est aussi une chambre représentative. Elle ne le représente pas au sens où elle a eu un mandat électoral, mais elle le représente au sens où elle reflète la diversité des parcours sociaux de la société, où elle est une mini-société. Elle est donc aussi elle-même représentative, quoique d'une manière spécifique.
On l'oublie effectivement, mais la représentation, c'est pas seulement le vote. Dimitri Courant, je le disais, je voudrais qu'on revienne sur l'Irlande et qu'on revienne à la genèse de tout ça. Pour comprendre cette aspiration délibérative de l'Irlande, faut revenir quelques années en arrière, vous expliquez ça dans un papier, et notamment aux effets de la crise de 2008. On est en 2010-2011, quelques mois après la crise, avec ces effets qui ont été particulièrement forts du côté de l'Irlande. C'est un pays qui a subi de plein fouet cette crise, et il y a un groupe de citoyens qui se réunit dans un mouvement qui est baptisé « We the City ». Racontez-nous ce moment-là, parce que c'est de là que tout part. Qui y a derrière ce groupe? Qu'est-ce qu'il cherche? Expliquez-nous un peu ce moment-là, qui est le début en réalité.
Absolument, oui. Alors, à nouveau, il faut connecter ça à ce qui s'est passé juste avant, à savoir les expériences d'assemblée citoyenne au Canada. Sur la réforme électorale. Et en fait, il y a un événement contingent qui est qu'un des grands spécialistes des systèmes électoraux au niveau mondial, qui est David Farrell, est irlandais, est invité dans les assemblées, comme expert dans les assemblées canadiennes, pour présenter ses travaux sur les systèmes électoraux, et donc découvre, lui il vient des systèmes électoraux, il connaît pas la démocratie délibérative, c'est pas son domaine à la base, maintenant c'est le cas, et il découvre donc le concept de l'assemblée citoyenne. Et il se dit, bon bah, notamment suite à la crise de 2008, c'est un système très intéressant, on devrait l'essayer en Irlande. Et donc il met en place avec d'autres personnes, avec des artistes, avec des activistes, il met en place un groupe donc qui s'appelle en effet We the Citizens, nous les citoyens, et ils vont bénéficier du soutien financier d'une fondation philanthropique, Atlantic Philanthropies, qui va leur permettre de procéder à un dispositif qui va se décomposer en deux temps. Premièrement, une dimension participative. Ils vont faire 7 réunions ouvertes à tous, donc participative, vient qui veut, donc pas nécessairement représentative par contre, pour repérer les thèmes. Ils veulent pas décider des thèmes eux-mêmes. Ils veulent que ce soit la population qui décide des thèmes. Et puis suite à ça, il y a trois thèmes qui vont émerger et donc qui vont tirer au sort 100 citoyens pour délibérer pendant un week-end. Ils n'ont pas les moyens de délibérer plus longtemps sur la question du rôle des parlementaires, de l'identité des politiciens et de la question de la crise économique, avec notamment un choix très important qui est est-ce qu'on coupe dans le budget, est-ce qu'on fait des coupes budgétaires ou est-ce que on va augmenter les impôts, par exemple. C'était une des questions.
Et puis alors, ce qui va se passer aussi, pardon Dimitri Courant, j'avance un tout petit peu, mais parce que je veux qu'on essaye de dérouler au mieux les choses, c'est que il y a un moment où ce groupe de citoyens, il va être effectivement entendu par ses élus. Mais ce qui va faire qu'il va être entendu, c'est peut-être moins un engouement pour ce dispositif délibératoire qu'un séisme électoral. En réalité, il se passe quelque chose qui va forcer les élus à écouter ce mouvement citoyen, cette convention citoyenne. Expliquez-nous, Dimitri Courant.
Oui, absolument. Donc la première initiative a aucun lien direct avec la politique étatique. Et donc, suite, il y a deux choses qui vont faire en sorte que l'État va, le Parlement va prendre au sérieux ça. Le premier point, c'est qu'en effet, il y a un séisme électoral avec le fait que le parti dominant va partir du pouvoir et une coalition, donc c'est toujours très compliqué les coalitions, de centre-droit, centre-gauche, Fine Gael, Labour, va arriver au pouvoir. Et donc, il va y avoir une détractation entre We the Citizens et ces deux partis politiques pour mettre au point une convention constitutionnelle. Mais il y a un élément très important, dont on parle pas assez, j'ai l'impression, qui est le fait qu'il y a une structure qui force à ce que toute modification constitutionnelle soit accompagnée d'un référendum. Il est impossible de modifier la constitution irlandaise sans passer par un référendum. C'est obligatoire. Et donc, du coup, il y a une structure d'incitation qui fait que pour les hommes politiques, c'est plus logique de consulter un mini-public, donc une fraction de la population, avant de soumettre leur réforme au vote du maxi-public, donc le corps électoral. Et donc, ils vont mettre en place une convention constitutionnelle de 66 citoyens tirés au sort, de 33 élus, donc c'est quelque chose de mix, avec un chair qui, lui, est issu de la société civile. Et ils vont devoir délibérer sur 8 thèmes que le Parlement leur a donné, et puis ils vont pouvoir en choisir deux de plus, et à nouveau ils vont décider de faire ça de façon participative, donc consulter la population irlandaise pour savoir les deux thèmes supplémentaires sur lesquels on peut délibérer, vous voulez que ce soit quoi.
On va continuer à dérouler, Dimitri Courant, l'histoire, mais je voudrais juste faire une toute petite pause avec Yves Saint-Omer pour déjà avoir son regard sur cette première phase-là. Moi, il y a quelque chose qui me frappe là-dedans, dans cette première étape, c'est que en réalité, les politiques n'avaient pas véritablement l'intention de se lancer dans une grande opération délibérative citoyenne, mais ils y ont été forcés par un nouvel environnement issu des élections. Donc la première chose qu'on voit, c'est que en réalité, il n'y a pas de volonté particulière des responsables politiques là. Vous savez, un contexte qui les force.
Mais vous savez, quand on se penche sur les grandes réformes du passé, on voit en fait qu'elles viennent de coalitions assez improbables. Prenez l'État-providence, l'État social que l'on sait menacer aujourd'hui. Le premier à le proposer institutionnellement, c'est Bismarck. C'était pour... et en même temps, il combattait les socialistes et les syndicats, et de l'autre côté, il fallait donner des choses. Aujourd'hui, au vu de la crise de la représentation politique qui est perçue par ses acteurs principaux, les responsables politiques, eh bien, il y a de la recherche de solutions et il y a de l'improvisation très largement là-dedans. Quand ça rencontre à la fois des demandes citoyennes de plus de participation et puis des inventeurs, des praticiens, de temps en temps des chercheurs qui... à travers la circulation des idées internationales qui se fait, la globalisation du monde, la mondialisation, c'est aussi la mondialisation des idées, des innovations démocratiques, eh bien, on prend ces outils-là, on les essaie, puis quand on voit que ça marche une fois, bah, on a tendance à les refaire une deuxième fois, on se renseigne, et peu à peu, ça peut intégrer la norme. Je crois que s'il y a un espoir de transformation sérieuse, profonde, je dirais presque révolutionnaire de notre système politique, c'est ça. C'est cette coalition entre des mouvements par en bas, des politiciens qui, peu à peu, se convainquent pour des raisons partiellement opportunistes, et puis peut-être, au bout d'un moment, par véritable conviction, et puis des gens qui, techniquement aussi, proposent des nouvelles choses, des concepts, que ces coalitions improbables pourront peut-être aboutir.
Alors, on s'est arrêté en 2014 avec vous, Dimitri Courant, et à ce moment-là, précisément, cet outil-là, il n'avait pas encore intégré la norme. Faut avancer encore un petit peu. On arrive en 2016, on a de nouvelles élections au mois de février, à l'issue desquelles on va à nouveau mettre une assemblée citoyenne délibérative en place, mais qui est un tout petit peu différente de la précédente, et en particulier, elle est différente en ce que la composition de l'assemblée, dans la composition de l'assemblée, il n'y a plus de responsable politique, ce qu'il y avait dans la précédente. Pour quelle raison, Dimitri Courant? Expliquez-nous.
Alors, il y a deux choses. Premièrement, le processus est reconduit parce que, notamment, donc il a 10 thèmes au total, il va faire 40 propositions, et seulement 3 vont être soumises à référendum, mais il y en aura une qui aura un succès phénoménal, celle sur le mariage pour tous, Marriage Equality, qui va recueillir 61% des suffrages lors du référendum, donc c'est un succès. Dans le même temps, par contre, ça on en parle moins, mais la réduction de l'âge du président qui était proposée est rejetée par les Irlandais parce que, tout simplement, il n'y avait pas eu de campagne dessus. Les campagnes, ça reste important si on veut que les gens sachent quoi voter. Et puis, bon, beaucoup plus tard, il y aura l'interdiction de blasphème qui avait été proposée aussi par cette convention qui va être approuvée par la population. Donc déjà, il y a ce succès. L'Irlande fait la une des journaux pour avoir être le premier pays à légaliser le mariage entre personnes de même sexe par référendum. C'est inédit.
Et donc, certaines propositions sont directement transformées en législation.
Absolument,
mais comme je le disais, ça n'a pas encore véritablement intégré la norme, puisque quelques mois plus tard, on va remettre sur place cette assemblée, mais il va y avoir des hésitations du côté des politiques qui vont refuser d'y participer.
Absolument.
Parce que c'est politiquement trop coûteux.
La raison principale, là, c'est pas une question de dispositif, parce que ça aurait été sur d'autres thèmes, ils auraient sans doute accepté. C'est vraiment une question d'enjeu. L'enjeu façonner la façon dont cette assemblée va fonctionner, et c'est l'enjeu de l'avortement, qui en Irlande est politiquement du suicide. Si vous voulez vous prononcer sur cette question, vous allez avoir une partie de votre base électorale qui va vous lâcher. C'est un enjeu vraiment clivant. Je connais ce cas-là parce que j'ai passé des mois et des mois en Irlande à étudier la façon dont ça se passait. J'ai suivi l'intégralité de ce processus et j'ai notamment fait des entretiens avec des parlementaires irlandais qui m'ont dit ça c'est la chose dont j'ai peur de parler avec mes électeurs. J'ai pas envie de leur en parler parce que il y en aura la moitié qui vont m'étriper de toute façon. Et donc du coup, cette fois-ci, c'est 100%, c'est que des citoyens, donc 99 citoyens, et avec une chaire de la Cour suprême, et ils vont devoir en effet délibérer sur l'avortement de novembre 2016 à avril 2017. Et en avril 2017, ils vont se prononcer à 64% pour la légalisation de l'avortement sans restriction, parce que sinon il y en avait qui disaient oui dans certains cas, le viol ou des problèmes de santé, mais non, enfin eux ils disent non, une position assez libérale qui est sans aucune restriction, c'est un droit attaché à la personne qui donc n'a pas à se justifier.
Et finalement, d'une certaine manière, ça aboutit une nouvelle fois avec des propositions qui vont être entérinées via la réforme constitutionnelle que vous évoquez. Yves Saint-Omer, il y a une autre chose là qu'on remarque à ce point-là, c'est qu'on a refait la généalogie de cette histoire-là avec Dimitri Courant. C'est long, c'est très long. On a commencé en 2010-2011. Est-ce que justement cette question des conventions citoyennes, elle ne va pas poser ce problème de la lenteur ? À l'époque dans notre ère de l'impatience, du clic, où il nous faut tout de suite, on va pouvoir attendre ?
Il est important qu'une convention citoyenne de ce type-là ait du temps pour délibérer. Il est important aussi que sa légitimité soit suffisamment établie dans les têtes, à la fois des responsables politiques et des citoyens, pour que ses propositions rencontrent un écho favorable. Mais en même temps, ces conventions citoyennes peuvent être l'occasion d'un basculement plus rapide. Le scénario rose de cette convention citoyenne pour le climat qui s'ouvre bientôt en France, c'est que par rapport à un thème extrêmement difficile, on ne va pas facilement réorienter radicalement nos modes de production et de consommation à la hauteur du défi écologique qui va être un des grands défis du siècle. Il n'y a pas eu grand-chose de fait. Et dans les premières années du quinquennat, rappelez-vous, Nicolas Hulot démissionne il y a un an en disant « les lobbies ont le pouvoir, je ne peux pas continuer ma tâche ». Peut-être que c'est l'occasion du basculement. Peut-être que là, on va pouvoir passer à un régime supérieur si la légitimité de cette initiative est suffisamment forte. Donc, ce temps, entre guillemets, perdu pendant quelques mois, pourrait peut-être, finalement, rattraper le temps perdu pendant des années. C'est le scénario rose. Maintenant, on ne peut pas exclure d'autres scénarios.
Et est-ce que, précisément, le scénario décrit par Yves Saint-Omer, Dimitri Courant, il a eu lieu en Irlande ? Je veux dire, est-ce que, désormais, ces conventions citoyennes ont précisément intégré la norme et c'est désormais un outil que les responsables politiques savent à leur disposition ?
Oui, oui, ils viennent d'en relancer, ils viennent d'en lancer plusieurs, là, au niveau national et puis notamment au niveau local, au niveau de Dublin, la question de la gestion de la ville de Dublin. Donc c'est quelque chose qui rentre dans les têtes et même au-delà de l'Irlande, enfin de façon globale, l'exemple irlandais est devenu quelque chose de fort. Mais il faut quand même pas se leurrer parce que la première réaction du Premier ministre, le Taoiseach, quand l'Assemblée citoyenne a rendu sa proposition, c'était c'est beaucoup trop progressiste, je soumettrai pas ça à référendum. Et donc là, il y a une articulation des mini publics délibérés qu'on dit un peu trop sage des fois, avec des mouvements sociaux, avec des mouvements féministes qui vont manifester dans la rue pour faire entendre leur mécontentement et le fait qu'ils veulent pouvoir se prononcer sur la proposition de l'Assemblée citoyenne. J'ai notamment pris des photos avec des manifestants qui ont des pancartes « Écoutez l'Assemblée citoyenne, nous voulons voter sur la proposition de l'Assemblée citoyenne ». Et puis, peut-être là-dessus aussi, on voit qu'il y a une certaine... justement du coup un certain doute du fait que les assemblées citoyennes soient parfois trop à la merci du bon vouloir des hommes politiques qui vont approuver ou pas ex post leur proposition. Et du coup c'est pour ça en effet qu'à mon avis la demande du RIC a pris plus d'importance que la demande des assemblées citoyennes dans le mouvement des Gilets jaunes en France, puisque la demande du RIC c'est une institution très claire. Une fois que vous avez vos signatures, le vote il a lieu et ensuite vous gagnez ou vous perdez et puis c'est immédiat. Et donc même si c'est un processus compliqué d'obtenir ces signatures, au moins il n'y a pas d'élément arbitraire, il n'y a pas d'élément de choix des gouvernants sur le fait que vous avez le droit ou pas de vous prononcer de telle ou telle manière.
Yves Saint-Omer, encore un mot, et puis ensuite on va retrouver Clément Mabi pour parler des nouvelles technologies et de ce qu'elles peuvent peut-être apporter justement à cette crise de la représentation. Dimitri Courant disait, c'est beaucoup trop progressiste, disaient les responsables, un certain nombre de responsables irlandais. Est-ce qu'on peut formuler l'hypothèse que ces conventions citoyennes favorisent plutôt le mouvement progressiste? Est-ce qu'on va plutôt aller dans le sens de propositions progressistes et moins dans le sens de propositions conservatrices? Est-ce que ça favorise la gauche, disons-le comme ça?
Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr, on ne peut pas, cela dépend. À partir du moment où ces conventions citoyennes sont... une image réduite, un microcosme de la société dans son ensemble, elles ne sont pas intactes, indemnes des mouvements d'opinion de la société dans son ensemble. Simplement, on part d'une situation et on la transforme à travers une délibération de qualité. Et on peut penser, en tout cas, qu'à travers cette délibération de qualité, bonne information, débat contradictoire, discussion visant à faire évoluer les opinions, ça soit l'intérêt général qui prime plutôt que le poids des lobbies. Nous sommes dans une société qui est profondément marquée par une asymétrie dans le pouvoir, dans l'information, dans la diffusion de cette information, et cela tend à rééquilibrer la chose. Et donc on peut penser que, disons, l'intérêt général va être mieux servi par des conventions citoyennes que des processus politiques, disons, plus classiques.
On va retrouver un nouvel invité par téléphone, c'est Clément Mabi. Bonjour Clément Mabi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin par téléphone. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'UTC de Compiègne et un spécialiste des liens entre numérique et démocratie. Alors, il y a quelque chose dont on parle beaucoup ces dernières années, c'est ce qu'on appelle les civic tech. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous dire ce que sont les civic tech? Quelle réalité ça recouvre? En quelques mots.
Alors, en quelques mots, finalement, derrière l'étiquette civic tech, on voit une grande variété d'initiatives qui ont toutes globalement pour objectif d'utiliser les ressources du numérique, c'est-à-dire la communication plus facile en réseau, pour transformer les règles du jeu politique et essayer d'intensifier l'engagement des citoyens dans les règles existantes. Donc ils essayent de s'attaquer à différentes missions démocratiques,
La transparence en s'appuyant sur un certain nombre de ressources numériques et notamment la mise en place de grandes plateformes numériques qui recueillent des propositions, etc., etc. Mais vous parlez d'engagement citoyen. Est-ce que réellement ces civic tech favorisent la participation citoyenne ou est-ce que finalement ces contributeurs sont des gens qui étaient déjà actifs mais sous d'autres formes? Est-ce qu'il y a des études scientifiques sur la capacité des civic tech à faire revenir ou non des citoyens dans la vie démocratique?
Alors, ce qu'on voit, c'est que les effets sont assez variés sur cette question. En fait, c'est la question derrière de l'inclusion, notamment l'inclusion numérique. Ce qu'on se rend compte, globalement, c'est que les publics qui sont déjà les plus fragilisés socialement sont, en général aussi, encore plus fragilisés par l'usage des technologies numériques. Donc, la promesse qu'il y a eu au départ du mouvement de Civic Tech, de dire on va permettre une inclusion extrêmement large des citoyens, elle est que très partiellement remplie. Mmh. On s'aperçoit, c'est que finalement, c'est des gens avec un fort capital social et politique qui s'emparent de ces outils et qui se mobilisent.
Alors, du coup, je récupère la question que je posais à l'instant tout à l'heure à Yves Saint-Omer sur la question de savoir si ces conventions citoyennes favorisaient davantage les idées progressistes que les idées conservatrices. Qu'en est-il des civic tech? Est-ce qu'on peut dire là aussi que ce que montrent ces plateformes numériques, c'est plutôt une tendance à mettre en avant, à défendre des idées progressistes?
Alors ça, c'est une question qu'on pose beaucoup aux technologies numériques, parce qu'elles ont d'un côté plein de promesses de renouvellement, de rafraîchissement de la démocratie, et puis récemment, on les accuse aussi beaucoup de porter le populisme, de souffler sur les braises, de favoriser l'élection de Trump, de Bolsonaro, voire même du Brexit.
C'est une question qui mérite d'être posée.
C'est une question qui mérite tout à fait d'être posée. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un petit peu ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que ce serait extrêmement techniciste de penser que les technologies sont responsables de ça. On se rend compte plutôt qu'elles viennent équiper des projets, renforcer des dynamiques existantes, et elles sont plutôt symptômes, en fait, de l'état actuel de nos sociétés et des controverses qui les traversent. Et les civic tech, c'est le symptôme, finalement, et ce qui fait aussi le prolongement avec les discussions qu'on a depuis tout à l'heure, que c'est le symptôme d'une volonté d'une partie des citoyens d'améliorer le fonctionnement des institutions représentatives et d'améliorer l'efficacité, avec ce parti pris que le numérique rend les organisations plus efficaces. Mmh. Et donc les civic tech font le pari qu'elles vont pouvoir améliorer la qualité du débat public, améliorer la qualité de l'engagement, de la participation des citoyens.
Il faut évidemment que ça se fasse avec, sinon l'aval, au moins la coopération des administrations en question.
En fait, il y a deux grandes approches. Il y a ceux qui vont développer des solutions et les mettre au service des institutions pour développer des outils, par exemple, de coécriture de la loi ou des choses comme ça. Et il y a ceux qui vont essayer de rester un petit peu à l'extérieur et proposer des outils plutôt d'influence à destination des mouvements sociaux, notamment pour venir et toucher l'opinion. On retrouve une vieille question de philosophie politique, est-ce qu'il vaut mieux rentrer dans les institutions pour les transformer ou au contraire rester à l'extérieur pour peser? Eh bien, le numérique et les civic tech reposent cette question avec des nouveaux termes, mais finalement prolongent ces débats.
Vous restez avec nous, j'ai d'autres questions à vous poser, mais justement, Yves Saint-Omer a peut-être quelques idées sur ce que changent les nouvelles technologies, les civic tech, dans cette fameuse question de savoir s'il faut rentrer dans le système ou rester à l'extérieur en pesant.
Comme le disait Mabi, ce n'est pas nouveau, et on retrouve une question qui est une question qui, quelque part, n'aura jamais une réponse définitive. À la fois être totalement à l'extérieur des institutions, c'est se priver de certains moyens d'action et d'influence, et en même temps être dans les institutions, c'est se priver de la capacité de contre-pouvoir que l'on a lorsqu'on n'est pas dans les institutions. Et finalement, lorsque l'on essaye de comprendre les évolutions sociales et politiques, on voit bien que ce n'est pas une solution ou l'autre qui représente la voie royale, et que c'est plutôt la combinaison d'acteurs qui font des choix en fonction de leur expérience personnelle, en fonction de leurs préférences politiques, à l'intérieur, à l'extérieur des institutions. Il faut du mouvement social, faut des responsables politiques, faut des hauts fonctionnaires, et c'est tout ça qui, peu à peu, transforme la société.
Et puis, il faut accepter de modifier notre système précisément pour intégrer tous ces mouvements. Je me souviens que l'une des choses que vous disiez à la suite de ces mouvements, que ce soit les indignés, Occupy Wall Street, Nuit Debout, etc., etc., où on disait beaucoup que finalement ces mouvements ne servaient pas à grand-chose tant qu'ils ne se formalisaient pas, qu'ils ne prenaient pas forme dans quelque chose, et notamment dans des partis. Vous disiez finalement la question est mal posée. La question pas de savoir comment est-ce qu'ils doivent se formaliser, mais la question est de savoir comment on intègre ces énergies.
Absolument. Et vous prenez, par exemple, le mouvement féministe des années 70. Il était complètement extérieur aux institutions, aux partis politiques, à l'université, aux entreprises. Et pourtant, les résultats qu'il a obtenus en quelques décennies sont énormes. Certes, c'est pas fini, mais peu à peu, ça a imbibé le reste de la société.
Clément Mabi, peut-être que précisément l'un des risques, c'est si nos États, nos démocraties ne sont pas en capacité d'aller rechercher et d'intégrer toutes ces énergies, toutes ces mobilisations citoyennes, c'est que d'autres le fassent à leur place. Il y a évidemment des acteurs du numérique qui sont là, qui sont extrêmement puissants. Alors on les appelle les GAFAM, mais il y en a évidemment bien d'autres. Quel est le risque, Clément Mabi, précisément, que ces acteurs privés, finalement, interfèrent dans des services qui devraient être gérés par l'État du fait de tout simplement, parce qu'elles relèvent tout simplement de l'intérêt général, Clément Mabi. Le risque.
Alors, on se rend bien compte qu'il y a un risque de souveraineté, d'ailleurs. C'est-à-dire que de plus en plus, et c'est déjà le cas, les acteurs qu'on qualifie de GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, viennent s'immiscer dans des questions d'intérêt général. Je peux vous prendre un exemple très simple. Facebook a lancé une petite application qui s'appelle le Safety Check. En fait, c'est pour se signaler quand on est en situation de danger. Il déclenche cette application, notamment après des attentats ou après des catastrophes naturelles. Or, cette mission de protection et de surveillance des populations, c'est typiquement une mission extrêmement régalienne. Mmh. Et Facebook vient s'immiscer dans ce type de mission. Donc il y a un vrai enjeu pour de proposer des alternatives. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on veut comme alternative? Est-ce que c'est des alternatives internalisées et pensées par les institutions? Est-ce que c'est des alternatives issues de la société civile? Ou au contraire, c'est peut-être l'horizon souhaitable, des coalitions, des collaborations. Mmh. Le numérique, ce qu'on se rend compte, c'est que là, quand ça marche, ça dépend aussi beaucoup des cultures politiques, des contextes sociopolitiques. Les cas peut-être les plus vertueux, c'est les cas où les institutions sont prêtes à collaborer avec la société civile pour créer des communautés, utiliser des dispositifs qui renforcent en fait leur légitimité politique et qui leur permettent de résister à ces GAFAM. 1, 2, 3, 4.
Power to the people, John Lennon, Yves Saint-Omer, vous connaissiez pas ce titre?
Hélas.
On est ravis de vous le faire découvrir.
On apprend à France Culture.
Merci beaucoup en tout cas à tous nos invités. Clément Mabi qui est avec nous par téléphone, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de communication à l'UTC de Compiègne. Un grand merci également à Dimitri Courant qui était avec nous en duplex de Lausanne. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont assuré le duplex. Yves Saint-Omer, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur ces expériences démocratiques. D'ailleurs, c'était le titre d'un de vos ouvrages, Petite histoire de l'expérimentation démocratique, tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours, c'était à la découverte. Un grand merci d'avoir été avec nous demain. On poursuivra notre série consacrée à nos parlements à la renverse demain. Mais pour l'heure, c'est Brice Couturier et son Tour du monde des idées.
Le Tour du monde des idées. Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors en théorie, le Parlement britannique est l'un des plus puissants du monde, mais mérite-t-il encore cette réputation, Brice?
En effet, depuis 1689, à la suite de la Glorious Revolution et de la fuite du roi Jacques II à la cour de France, l'Angleterre est une monarchie parlementaire. Non seulement le Premier ministre, chef de l'exécutif, est issu de la Chambre basse, mais il en demeure membre durant toute la durée de son mandat, à la différence de son équivalent français. Et c'est devant le seul Parlement qu'il est responsable. Il n'y a pas de président élu par le peuple au Royaume-Uni. Or, le plus ancien Parlement du monde a été dessaisi d'une décision aussi capitale que le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, confié au référendum. Pire, le voici maintenant également écarté aussi des conditions dans lesquelles va se réaliser cette rupture, et cela en dit long sur son affaiblissement. Mais n'est-ce pas un phénomène assez général? Se demandent deux chercheurs de la prestigieuse Hertie School of Governance de Berlin. Julian Gundlach et Fabian Kunkel viennent de signer une étude assez révélatrice sur ce qui se passe en ce moment en Allemagne. Leur réflexion part d'un cas exemplaire. Au début de cette année, un député élu au Bundestag, Gerhard Schick, a démissionné de cette assemblée. Cet économiste, membre du Parti des Verts, a expliqué qu'il jugeait plus efficace de mener le combat qui est le sien pour encadrer la finance hors du Parlement. Il a fait le choix de la société civile. De son côté, le nouveau mouvement de gauche populiste, Aufstehen, se garde bien de former un nouveau groupe parlementaire, il préfère exister à travers les réseaux sociaux. Les parlements avaient deux fonctions principales, écrivent ces deux chercheurs allemands, voter les lois et examiner le budget de l'État. Mais regardons les choses en face, les gouvernements ont presque partout repris l'initiative de la législation, en tous les cas celle qui compte, comme c'est le cas en France des projets de loi. En outre, une bonne partie de la législation dans l'Union européenne échappe aux parlements nationaux car elle relève des institutions de l'Union européenne. Quant au budget, des éléments aussi décisifs que les taux d'intérêt, la valeur de la monnaie ou la régulation financière, ils relèvent dorénavant de la Banque Centrale Européenne, un organisme qui n'est pas élu contrairement au Parlement européen. Pire, ce ne sont pas les membres des gouvernements qui rédigent les lois et les règlements, ce sont les administrations, théoriquement placées sous leur autorité. On entend souvent ces bureaucrates murmurer « qu'importe qui est actuellement le ministre ». En amont des décisions les plus importantes de la vie politique, on ne trouve plus les commissions parlementaires, mais des conciliabules semi-clandestins, associant aux fonctionnaires, représentants des intérêts organisés comme les syndicats, experts et dirigeants d'ONG.
Et c'est l'une, Brice, des origines du sentiment de dépossession que ressent l'électeur allemand.
Eh oui, il se dit que, décidément, quel que soit son vote, rien ne peut changer vraiment dans ce pays. Les jeunes en ont pris leur parti. Militant dans les associations de la société civile, ils délaissent de plus en plus les partis politiques et la composition du Parlement allemand à cet égard est lourdement significative. Dites-vous bien que sur les 709 élus qu'ils comptent, seuls 18% ont moins de 40 ans et que la plupart des responsabilités, comme les présidences de commission, sont détenues par des baby-boomers qui, chez nous, auraient largement dépassé l'âge de la retraite. Pas étonnant, me direz-vous, que le financement de celle-ci, la retraite, les préoccupe bien davantage que le réchauffement climatique. Judy Dempsey, la spécialiste de l'Europe au Carnegie Endowment, interrogeait récemment plusieurs experts internationaux sur la crise politique en Allemagne. Et les réponses qu'elle publie confirment ce diagnostic. Non seulement le Bundestag n'est pas le lieu où se déroulent les débats politiques décisifs, mais la vie politique dans ce pays paraît proche de la sclérose. Selon Heather Conley, que je cite, c'est l'obsession de la stabilité, qu'elle soit monétaire, politique ou économique, caractérisant la République fédérale depuis l'origine, qui engendre cette sclérose. Cet immobilisme a favorisé d'abord la création de nouveaux partis différents comme les Grünen, les Verts, ou extrémistes comme l'AFD, mais il pourrait bien en surgir d'autres à l'avenir. Selon Krzysztof Bledowski, les électeurs allemands vont à l'avenir se prononcer de plus en plus pour des partis représentant des intérêts particuliers, d'ordre géographique ou culturel. Les grandes coalitions d'hier ont épuisé leurs possibilités. Le douillet duopole, comme il dit, CDU-SPD, a abouti à une indifférenciation par rapprochement. À l'avenir, la vie politique en Allemagne, comme dans les autres grandes démocraties, devra laisser s'exprimer des aspirations très différenciées et les grands partis attrape-tout vont continuer à s'affaiblir. Pour former des gouvernements, il faudra trouver des points d'équilibre entre des préférences multiples et le Parlement retrouvera peut-être alors la fonction qui doit rester la sienne, redevenir le lieu où se constituent des majorités d'idées.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.